réseau Cogeco. Cogeco. Vous écoutez les amateurs de sport week-end. Voici Pierre Vézina.
On est de retour aux amateurs de sport. Nouveau rendez-vous du dimanche dès 15h. Évidemment, on vous souhaite la bienvenue. Et ça se poursuit comme ça jusqu'à 17h. Petit résultat de football avant d'aller plus loin dans la NFL. Match pré-saison. Chicago mène 19-7 sur le Tennessee. C'est au quatrième quart. Plus tard, à 16h30, il y aura Cincinnati à Washington. Et ce soir, San Francisco au Minnesota. Au baseball, les Blue Jays tirent de l'arrière 6-2 contre les Twins en septième manche. Les Yankees mènent 8-1 devant les Mariners de Seattle, c'est en septième. Baltimore mène 2-1 en sixième manche contre Boston à Boston. Et les Rays de Tampa Bay sont en avance 1-0 sur les Cards à Saint-Louis. C'est un résultat de cinquième manche. Et dans la Ligue CANAM, parce qu'à Québec, il y a une équipe qui va très bien, merci. À Trois-Rivières, on nous entend aussi, il y a les Aigles. Et à Gatineau, pour les auditeurs du 104,7, il y a les champions à Ottawa, juste de l'autre côté de la rivière. Je mentionne que les Aigles sont en avance 10-3 sur les Jackals du New Jersey en septième manche. Et Ottawa tire de l'arrière 4-2 devant les Miners de Sussex. C'est en sixième. Les Capitals, eux, vont jouer à 17h contre les Boulders à Rockland. Un match important, une série importante qui se termine aujourd'hui. Jusqu'à présent, les deux équipes ont gagné chacun un match dans les deux premiers affrontements. Les Capitals sont en avance au premier rang du classement de la Ligue CANAM. Un match et demi devant leurs adversaires du week-end, donc les Boulders de Rockland. Et il y a du baseball junior également en fin de semaine avec les séries de la Ligue de baseball junior élite du Québec qui se poursuivent avec 8 matchs. On aura probablement l'occasion de vous donner des résultats à jour un petit peu plus tard. Je vous rappelle que l'Impact reçoit le Toronto FC à compter de 16h30 cet après-midi. Pour les auditeurs qui veulent écouter la retransmission du match, sintonisez le 98.5 dans la grande région de Montréal ou encore par l'application Cogeco. Vous y avez accès également. Aujourd'hui, il y avait le marathon de Québec dans les rues de Lévis et Québec, mais il y avait aussi hier et avant-hier le début de la nouvelle saison du football universitaire québécois. Et je vais parler un petit peu des deux événements avec le même gars parce qu'il a été trempé assez de près dans les deux événements. C'est le journaliste Guillaume Piedbeuf du quotidien Le Soleil. Salut Guillaume.
Salut Val.
T'as repris ton souffle?
Ben écoute, le souffle, oui, les jambes, je t'avoue que je marche avec les jambes bien droites, raides, depuis oui. 3-4 heures.
Alors, parce qu'il faut dire que...
Je parle assis avec les jambes droites devant moi et qui ne bouge pas beaucoup.
J'imagine, parce qu'il faut mentionner que Guillaume a le mérite, très grand mérite, d'avoir fait le marathon aujourd'hui, 42,2 km. Il y a 8200 participants et participantes qui ont pris part aux trois épreuves de la journée, le 10 km, le demi-marathon. Et le marathon également. Malheureusement, il faut le mentionner, il y a un participant du demi-marathon qui est décédé à une couple de kilomètres de l'arrivée. C'est malheureux, mais ça arrive à plein d'endroits dans le monde, dans ce genre d'épreuve-là, où il y a des gens qui décèdent après un effort aussi intense. Et ça fait en sorte qu'on a encore plus d'admiration pour ceux qui l'ont complété et pour ceux qui se tiennent en forme pour compléter ce genre d'épreuve-là. Parlons de football universitaire parce que t'en es un spécialiste, Guillaume. En fin de semaine, c'est le début de la nouvelle saison. Une saison un peu particulière par rapport aux dernières parce qu'il y a une équipe de moins. Les Gators de Bishop sont rendus à la conférence des Maritimes. Donc, une ligue à 5 équipes avec des avantages, mais des inconvénients aussi, j'imagine.
Ben, une ligue clairement plus paritaire. Ça, il n'y a pas de doute. Les Gators de Bishop, le soyons francs, c'était le 60-0 dans le calendrier du Rouge et Or et des Carabins ces dernières années, presque année après année, même pour les équipes, je te dirais, de second tiers dans le RSEQ qui étaient devenus les trois autres, hein, Sherbrooke, Concordia et McGill. C'était un match plus facile, une ou deux victoires par saison plus facile. Maintenant, ces victoires-là prennent le bord et ce sera beaucoup plus compétitif de fin de semaine en fin de semaine. Est-ce que ça veut dire qu'on a encore une ligue à cinq équipes égales? Non. C'est sûr que Laval et Montréal restent pour le moment au-dessus des trois autres, mais c'est une ligue quand même où il y aura beaucoup moins de voler en bonne et due forme cette saison qu'on l'avait vu dans les années passées.
Et avant le début de la saison, on a posé la question à Glenn Constantin, l'entraîneur-chef du Rouge et Or, qu'est-ce que ça allait changer, puis tout ça, surtout dans la planification de la saison. Et j'ai bien aimé la réponse de Glenn parce que la première chose qu'il a amené comme élément de réponse, c'est que ça va être plus facile pour nos étudiants athlètes au niveau des blessures et au niveau des études. C'est un coach de football. Lui a pensé à ça aussi, aux études. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, ce sont des étudiants qui jouent au football et non pas des athlètes qui étudient.
Là. Et là, il faut juste rappeler aux gens, c'est qu'en fait, en l'absence des Gaileuses de Bishop, à un calendrier à 5 équipes, il y aura 2 fins de semaine, donc 2 semaines de congés par équipe durant la saison régulière. Il y en avait une par le passé. Mm-hmm. Donc, clairement, oui, il y a des avantages pour les blessures, pour les études, pour les étudiants athlètes. Maintenant, ça faisait aussi un camp d'entraînement qui était devancé. Alors, 4 des 5 équipes ont commencé leur saison en fin de semaine. C'est des ajustements. Là, j'en ai parlé avec Glenn, avec Danny Machocha aussi. Et de part et d'autre, là, c'est un gros changement quand même d'avoir un camp d'entraînement plus condensé. Il faut que tu prennes des décisions concernant tes partants. Il y aura peut-être un peu plus d'ajustements dans les premiers matchs de saison régulière. Donc oui, un calendrier différent, et je le mentionne, là, mais du côté du Rouge et Or, je peux vous dire une chose, on souhaite que les Gaileuses de Bishop gagnent les Maritimes. Et ça a l'air absurde, mais parce que ça fait quelques années que le Rouge et Or travaille en coulisses pour une Super Ligue. On aimerait avoir un calendrier qui impliquerait les gros programmes canadiens de l'Ontario, de l'Ouest, qu'on réussisse à planifier ça. Et c'est difficile d'avoir de l'attraction du côté du sport interuniversitaire canadien. Maintenant, si les Gaileuses de Bishop, qui étaient de loin la pire équipe au Québec, s'en vont gagner les Maritimes cet automne, qui est pas... Bon, ils ne sont pas favoris, mais c'est pas impossible. Là, ça aurait l'air suffisamment fouvaise que le sport canadien n'aurait pas le choix de se dire, écoute, cette équipe-là n'était pas capable de faire les séries au Québec, sera en demi-finale canadienne devant Montréal ou Laval. Si on sera en demi-finale canadienne, ce sera devant Montréal ou Laval. Alors, il y a quelque chose là que le Rouge et Or souhaite pratiquement là, que les Gaileuses connaissent du succès dans les Maritimes pour montrer un peu le non-sens là, du système actuel.
Parce que par le passé, l'équipe qui arrivait en demi-finale canadienne et qui avait affronté les Maritimes, c'était quasiment un laissé-passer gratuit pour la grande finale de Coupe Vanier. Là.
Depuis que Blake Neal a quitté St. Mary's au milieu des années 2000, Vez, c'est le cas. On parle, je veux pas être insultant, là, mais c'est presque une semaine de congé. Là. On sait automatique que l'équipe qui affronte les Maritimes en demi-finale canadienne, et ça, il y a une rotation, là, va se rendre en Coupe Vanier.
Guillaume, tu l'as abordé un petit peu tantôt. Est-ce que dans les 3 équipes de deuxième peloton, si on veut, le McGill, Concordia et Sherbrooke, est-ce qu'il y en a une qui peut chauffer Laval ou Montréal?
Ben, écoute, là, on a vu que Concordia et le Vert et Or perdre assez, sans aucun doute, là, je veux dire, le Rouge et Or, même s'il y a eu quelques flashs de Sherbrooke défensivement hier, où ils ont bien paru, on parle d'une défaite sans équivoque. Du côté de Montréal, même le score est un peu plus serré que le match l'était parce que les Stingers ont marqué 2 touchés en fin de rencontre. Alors, ce ne seront pas ces 2 équipes-là, il semble, pour le moment. Les Redmen de McGill sont intéressants parce que Ronald Dillard, qui est entraîneur-là pour une 3e saison comme entraîneur-chef présentement, a très bien recruté dans les dernières années. Je pense que les Redmen sont encore un peu jeunes. Quand on va arriver des matchs importants contre Montréal, contre Laval. Mais côté talent, je crois que c'est la 3e équipe au Québec. Donc, on a des éléments en place, on a des skills, comme on dit dans le monde du football, des joueurs rapides, des bons athlètes, un bon jeune carrière de 2e année. Maintenant, est-ce que ça va se transmettre en des succès contre les 2 gros programmes cette saison? Je suis pas sûr. Mais côté talent, je pense que c'est l'équipe qui pourrait rivaliser le mieux avec Montréal et Laval.
Bon, vendredi, Montréal a battu Concordia 37-19. Hier, une dégelée de 40-5 en faveur de Laval sur Sherbrooke. Mais Sherbrooke est arrivé à Québec avec le torse un peu trop bombé, non?
Ouais, ben écoute, moi j'étais plus là parce que j'allais me coucher pour mon marathon, mais après le match, on s'est échangé quelques mots doux. Mathieu Lecomte, le nouvel entraîneur-chef du Varior de l'Université de Sherbrooke, avait mentionné à la tribune là, du côté de Sherbrooke que le Varior aurait une des meilleures, sinon la meilleure défensive au pays cette saison. Et évidemment, la semaine même, le Rougeur a dit « Ah, ça ne me dérange pas, on aime l'attitude », mais après le match, bon, Marc Fortier, le coordinateur défensif du Rougeur, a passé un commentaire et là, il y a une petite escalade entre les deux. Mais en même temps, est-ce que moi j'ai de la misère à blâmer le Varior? Tu sais, Mathieu Lecomte arrive en poste, peut-être qu'il a ajouté trop d'huile sur le feu, mais il essaie de ramener une mentalité du Varior qui était il n'y a pas si longtemps que ça. Le Varior battait les Carabins de l'Université de Montréal, était proche de Laval et Montréal, et je pense qu'il essaie de ramener l'espèce de mentalité, on s'en vient pas à l'abattoir quand on va jouer contre le Rouge et Or, même si on ne les a jamais battus. Et pour ça, ben ça pourrait avoir un certain succès auprès de ses joueurs. Ceci étant dit, ça n'a clairement pas plu aux Rougières.
Mais il me semble que c'est le genre de choses que tu peux dire dans le vestiaire, la porte fermée à tes joueurs pour les crinquer en bon français, mais pas de main immédiat.
Ouais, ben écoute.
Parce que là, tu cours au trouble, là. Et c'est arrivé, ouais, c'est effectivement arrivé hier.
C'est sûr que, puis tu prends Gaël Constantin, par exemple, qui a la meilleure équipe au pays une année sur deux depuis 15 ans et qui, lui, à n'importe quelle formation, publiquement, aux médias, va toujours trouver le positif sur les adversaires, même quand on affrontait les Gators de Bishop l'année dernière, par exemple. Alors, c'est sûr que peut-être qu'il en a dit beaucoup. Maintenant, je pense que c'est un peu l'attitude qu'il veut implanter à Sherbrooke dans le sens. On n'a pas de complexe, les autres équipes vont pas nous aimer. On va être une physique, on va être difficile à jouer. Est-ce que ça a aidé ces joueurs sur le terrain hier? Dur de dire oui, mais j'ai l'impression que ça fonctionne quand même avec l'espèce d'image et l'espèce de mentalité que Mathieu Lecomte veut amener du côté du Varéal.
Mais ça, tu peux utiliser ce langage-là à condition que, comme dirait l'autre, les bottines suivent les babines. Ça n'a pas été le cas hier. Il ne peut pas répéter la même affaire cette semaine, là.
Et voilà. Alors, c'est sûr que même les joueurs du Rouge et Or, là, hier, après le match, on a vu Étienne Moisan qui a mentionné, ouais, le Varéor, on le sait, c'est les meilleurs à chaque année. Hein, parce qu'à chaque année, au début de chaque saison, on a l'impression que ça va être le Varéor annonce un peu son année.
Ouais.
C'est sûr que du côté du Varéor, il faudra, surtout contre Laval, là, on n'a aucune victoire dans l'histoire du programme contre le Rouge et Or de l'Université Laval. Quand même incroyable là, pour une équipe qui a quand même eu du succès au Québec dans la dernière décennie.
25 victoires en 25 matchs pour le Rouge et Or contre Sherbrooke depuis que Sherbrooke est revenu dans la Ligue en 2003. En terminant, Guillaume, juste un mot sur... Parce que moi, il m'a impressionné. Il y a plein de gens qui ont sans doute vu le match hier sur TVA Sports entre le Rouge et Or et le Vert et Or. La performance d'Hugo Richard m'a renversé hier. Je l'ai trouvé tellement bon. Puis là, j'espère que s'il écoute, il s'enflera pas la tête. Je pense que c'est pas son genre, là. Mais je l'ai vu se sortir de situation corsée où il y avait beaucoup de pression. Je l'ai vu lancer le ballon avec force, avec précision. Il a géré le match de façon intelligente. C'est un carrière de quatrième année. Il faut se dire que, bon, c'est sa quatrième, c'est déjà beaucoup, mais il en reste encore une, imagine, l'an prochain.
Et c'est sûr, puis écoute, on se rappelle tous de la première saison d'Hugo Richard, il avait été fantastique, mais reste que je pense que de ne pas avoir gagné même un championnat provincial à ses deux premières saisons, en étant vaincu par Montréal les deux premières, ça lui avait ajouté de la pression hein, ces dernières années, et je pense que c'est plus facile pour lui, c'est un carrière décomplexé, qui a gagné sa Coupe Vanier l'année dernière, qui a bien fait en Coupe Vanier l'année dernière, et écoute, on a vu le meilleur d'Hugo Richard hier, parce que ça a toujours été le genre de joueur à faire des jeux, à éviter des sacs du corps pour faire des touchés, mais il y avait des erreurs aussi. Hier, il n'y en a pas eu. Et l'autre chose que j'ai aimé, c'est que ça a commencé lentement hein, pour l'offensive du Rougeard hier, au premier quart. Et fut un temps où Hugo Richard était un peu du genre à se frustrer. On le voyait dans son non-verbal sur le terrain. Peut-être pas un rassembleur, comme on demande aux carrières de l'être à ses premières années. Il s'en mettait tellement sur les épaules que quand ça fonctionnait pas, devenait un peu, se refermait sur lui-même. Et hier, a été patient. On ne sentait pas de signes de frustration au premier quart, même si ça ne fonctionnait pas. On ne marquait pas des touchés au premier quart. Et éventuellement, c'est venu. Donc, moi aussi, j'ai été impressionné par la performance d'Hugo Richard. Je m'attends à une grosse saison de sa part parce que c'est un joueur qui a toujours eu tous les outils. Et là, en plus, tu as la confiance qui va avec et l'expérience qui va avec.
Guillaume Piébeuf, merci infiniment pour ces commentaires sur le football universitaire. Puis encore bravo pour ton marathon. Puis prends le temps de soigner tes jambes endolories.
Je vais rester au lit pour quelques jours. Toujours un plaisir, mais...
Salut, Guillaume. Au revoir. Guillaume Piébeuf du quotidien Le Soleil avec qui on parlait de football universitaire. Les prochains matchs du football universitaire québécois, jeudi, Concordia sera à Sherbrooke en soirée et vendredi soir, Laval à McGill. Après la pause, on reparle du combat de boxe d'hier soir et préparez-vous, on va prendre des appels un peu passé 16h30 aux amateurs de sport.